dit la presse ?
Que dit la presse ?
Bonjour à tous, bienvenue à cet instant de lecture de la une des journaux sur votre radio en ligne et Crystal News. Et parlant des journaux ce matin, l'actualité c'est la pandémie du coronavirus, la COVID-19 qui dicte sa loi au Bénin. Désormais, là-bas, des 1000 cas confirmés, franchis, écrit le journal, 115 cas contacts sous traitement, les responsables des marchés sensibilisés sur les gestes, les maires pour inverser la tendance. Autre journal qui donne la même information, Dynamisme Info. Le Bénin franchit la barre des 1000 cas avec un 14e décès, annonce-t-il. Autre titre à la une de ce journal, quand la rigidité des textes amène à terre les intentions de candidature, et cela c'est au sujet de la présidentielle de 2021. Participation à la prochaine présidentielle, à quel moment de l'échéance Patrice Talon va-t-il aviser, s'interroge ce journal. Autre actualité, amélioration de la qualité de la gouvernance, le préfet Megbedi fait outiller les maires du Koufo. L'autre quotidien, préservation du patrimoine foncier des communes, la mafia foncière dans le viseur de Talon, écrit-il. 2020-2021, l'année des grandes réalisations physiques, c'est le bilan fait à la une du quotidien, l'autre quotidien ce matin, parlant des 3 ans du MCI Bénin 2, programme donc des États-Unis de l'État américain au Bénin. L'ANCB lutte contre COVID-19. L'ANCB fait don de masques à la mairie de Cotonou, nous informe également ce journal. Autre quotidien ce matin, Diakpata. Diakpata qui dit à sa une, Luc Atropo reçoit un soutien de taille de l'ANCB, toujours parlant donc de ce don de matériel pour lutter contre la COVID-19. 125 millions de dollars pour l'axe Boykon-Parakou, le Bénin pour mieux desservir le Mali, le Niger et le Burkina. C'est la manchette de Diakpata ce vendredi. Et puis, Benjamin Hunkpatin hier sur le 20h de l'OITB, la télévision nationale, citation à la une du journal Diakpata, « Je confirme que le Bénin a franchi la barre de 1000 cas et que l'urgence doit être à la prudence. » C'est surtout l'actualité politique qui intéresse Matin Libre ce matin, qui ne fait d'ailleurs pas cas de cette actualité de la COVID-19. Il annonce prise de contact avec les populations, Joël Aïvo à Savin. Droit dans leur bottes, opposition, ils ont gardé la ligne. C'est d'ailleurs le grand titre de ce journal. Et en image, les photos de quelques opposants, Boni Yayi, Nicéphore Dieudonné Soglo, Basile Ahossi, Candide Azanaï, Guy Mitokwe, Eugène Azatasso et autres. Toute autre actualité à la une du confrère de la matinée en manchette, il écrit « Aéroport international de Glodjigbé, hôpital de référence, que deviennent ces grands chantiers annoncés par la rupture ?» Assainissement des villes d'Abomey, Calavi et de Cotonou, l'inondation, ce phénomène qui défie tous les régimes. Autre titre, investissement financier dans les États africains, dans le domaine militaire, les deux pays les plus dépensés en Afrique se trouvent au Maghreb. En chiffres, les dépenses militaires africaines en 2019. Voilà ce qu'on peut retenir pour l'essentiel de la une des journaux, en tout cas la une de ces journaux qui sont parvenus à la rédaction de Crystal News. Voilà donc pour la première partie de votre émission, la une des journaux. Dans un instant, le décryptage.
Que dit la presse ? Que dit la presse ?
L'instant décryptage à présent et c'est avec deux confrères en studio. Bonjour Maxime Lobo.
Bonjour, cher Vigila Wansé.
Vous êtes de la Radio Afrique Espoir, la radio de la capitale, comme vous aimez vous appeler. Et Josaphat Dabolino est également dans ce studio. Lui, il est de Crystal News. Bonjour, Josaphat.
Bonjour, Vigile Avancé. Bonjour, chers internautes.
Eh bien, c'est le COVID, ou plutôt la COVID, je crois que ce qui est conventionnel désormais, c'est la COVID retenue par l'Académie française. C'est la COVID-19 qui dicte sa loi au Bénin, Maxime Nogo.
Absolument. Pour cette terminologie de la COVID, le COVID, moi, je dis carrément le coronavirus.
Carrément.
Parce que c'est une pandémie de nouvelle génération. Donc, il faut prendre quand même avec pincette. Nous n'allons pas nous apesantir seulement sur des articles. Puis on ne sait pas ce sur quoi les gens se sont reposés là pour dénommer ça la COVID.
Le COVID ou la COVID, dans tous les cas, ça ne nous guérit pas forcément.
C'est ça. Bien, je parlais de cette pandémie, mais j'ai une observation tout de suite là, puisque une pandémie qui a commencé il y a de cela, disons, 3 mois, et le Bénin est si négativement impacté bientôt, ou bien près de 1015 cas. C'est important, c'est très important. Et que faisons-nous? Et que font les gouvernants? C'est une question qui interpelle les consciences, que ce soit au niveau de la société civile, dont nous aussi, hommes des médias, nous en faisons.
Eh bien, la barre de 1000 franchis annonce beaucoup de journaux ce matin. Josaphat Dabolino, le matinal cite le ministre de la Santé publique, Benjamin Houpatin, qui était sur la télévision nationale hier. Il dit ceci, le mal est dans la communauté et circule.
Oui, malheureusement, le mal est dans la communauté. C'est ce qui est un peu dommage parce que déjà, ça a quitté cette phase d'importation et c'est désormais au sein de la population. Et que si vous suivez les épidémiologistes qui se prononcent sur la question, c'est que nous sommes à une phase où c'est désormais critique parce que c'est la communauté, c'est une contamination de masse. Et là, c'est compliqué pour tous les scientifiques, pour tous les experts de gérer une telle contamination de masse parce que... Vous avez connaissance également de ce qui s'est passé dans les autres pays. C'est extrêmement compliqué de maîtriser parce que déjà il y a le contact, il y a la communauté qui est déjà touchée. Et si déjà le ministre de la Santé, le ministre béninois de la Santé a connaissance et a conscience également du danger que représente déjà cette contamination des bases, ce qui veut dire qu'il y a déjà un premier pas. C'est déjà un premier pas bien sûr, mais il y a d'autres pas à franchir. C'est le pas bien sûr de la sensibilisation, des actions à mener, des décisions à prendre parce que vous et moi n'avons pas quand même les prérogatives de prendre une décision. Ce que nous pouvons faire, c'est de contribuer à la sensibilisation, c'est d'en parler pour éveiller les consciences. Mais la grande décision revient aux autorités du pays qui doivent quand même prendre les responsabilités, avoir le courage de prendre des décisions plus fortes qui sécurisent le citoyen béninois. Aujourd'hui, on nous dit c'est exigé désormais le port de masque si vous ne pouvez pas respecter la distanciation de 1 mètre entre les personnes. Mais est-ce que véritablement ça se respecte dans la communauté? C'est la grande question. Vous allez dans les marchés, vous voyez déjà des femmes qui s'agglutinent, des femmes qui se cognent, des gens, en tout cas, qui viennent au marché, qui se touchent à tout moment, sans dispositif de lavage de main, ni à l'entrée, ni à l'intérieur de certains marchés, sans le port de leur cache-nez, encore qu'au même moment, il y a les agents de force de sécurité et de la défense qui, parfois, circulent au sein du marché pour, prétendre-t-ils, réguler, pour amener des gens à respecter, alors que eux-mêmes, le paradoxe, c'est que vous allez voir des agents eux-mêmes qui portent leur masque au niveau du menton, laissant bien sûr la bouche, laissant le nez, alors qu'en fait, que les scientifiques ont dit clairement que le virus se transmet par voie respiratoire, donc par la bouche et par le nez, et également par les yeux, en tout cas, en ce qui concerne les orifices. Mais aujourd'hui, nous constatons que même s'il y a certains agents de force, ce n'est pas tout, je ne peux pas généraliser quand même, mais il y a certains que vous voyez qui portent leur masque au niveau du menton pour ceux-là qui sont censés sensibiliser et réprimer à la limite. Donc, je crois extrêmement grave. Le ministre, dans sa sortie, faisait également cas de l'attention que chacun doit désormais porter à ce virus. Je crois que le fait d'attendre 1015 cas avant de tenir des discours du genre me paraît un peu bizarre et me gêne un peu. Pourquoi? Parce que déjà, le premier cas, vous avez eu des voix qui se sont levées dans ce pays pour dire prenez des mesures fortes, menons des actions
on
plus fortes.
On est passé quand même par le cordon sanitaire, par exemple, et autres mesures.
Et ça a prouvé également son inefficacité. Vous avez constaté, malheureusement, ça n'a pas donné grand-chose. En tout cas, je dis inefficacité parce que ça n'a pas donné grand-chose. Il y a des gens qui savaient contourner, bien sûr, ce cordon sanitaire. Nous avons des frontières poreuses et également ce cordon, je n'arrive même pas à le qualifier. Mais tout compte fait, il y a des gens qui contournaient le cordon. Il suffit juste de ça, de maîtriser les voies de raccourci comme il appelle souvent pour se retrouver de l'autre côté. Ce qui a fait qu'aujourd'hui, l'épicentre, ce n'est pas seulement à Cotonou. Nous en avons désormais en dehors de Cotonou et c'est ça ce qui est inquiétant. Aujourd'hui, ça va se généraliser dans le pays tout entier et du coup, des gens qui sont dans des villages profonds à l'intérieur du pays vont se retrouver contaminés et vous voyez déjà le drame. Encore que là-bas, si vous quittez Cotonou, vous quittez Porte-Nouveau, Abomey-Calavier et les communes environnantes, ce n'est pas toujours évident de voir les populations. Ma grand-mère, mon grand-père de l'autre côté du village n'arrive quand même pas à savoir qu'effectivement, je dois porter mon masque, je dois me laver les mains à chaque fois quand je touche quelque chose, je dois prendre des précautions nécessaires. Non, il n'y a pas d'encore ça.
Mais dans une telle pandémie, qui tenir comme responsable?
Non, la responsabilité incombe à tout le monde d'abord, parce que le problème, c'est que déjà au sein de la communauté, il y a des gens qui doutent toujours de l'existence de la maladie. Même il y a certains cadres également qui soutiennent que non, cette maladie, certes, nous en avons, mais ce n'est pas aussi criant, ce n'est pas aussi alarmiste que ça. Et il y a d'autres pandémies comme le paludisme, comme l'hépatite B et bien d'autres qui sévissent et qui font beaucoup plus de morts aujourd'hui. Donc, s'il y a déjà ce doute, s'il y a déjà ces avis au sein de l'opinion publique, on aura du mal à véritablement contenir cette épidémie. Et la responsabilité, je disais à l'instant que ça incombe à tout le monde, vous et moi, à tout citoyen béninois qui doit désormais savoir que la vie, sa vie dépend de lui-même et la vie de l'autre également dépend de lui. Si chacun déjà peut savoir que la responsabilité est d'abord individuelle avant d'être collective et que moi, en tant que Josaphat, je prends soin de me protéger, de respecter les gestes barrières, non seulement je me protège, mais également je protège mon alentour, je protège ceux-là qui me sont proches, parce que aimer aussi, c'est protéger l'autre. Et si on arrive à avoir cet avis, je crois qu'on peut éviter beaucoup de choses, on peut limiter. Et puisque, comme je l'ai dit il y a quelques jours sur ce même plateau, dans ce même studio, c'est que nous n'avons pas encore atteint le pic. Et les spécialistes, les épidémiologistes le disent toujours, le Bénin n'a pas encore atteint son pic. Donc le pic est attendu dans la première quinzaine du mois de juillet, ce qui veut dire que nous avons encore du chemin. Mais je crois qu'on peut barrer la voie à ce pic pour dire nous sommes déjà à 1015 cas, revenons, commençons par descendre. Et ce qu'on constate également de l'autre côté, c'est que les cas confirmés augmentent, mais les cas de guéris n'augmentent pas. Et c'est ça ce qui est inquiétant. Est-ce à dire que le traitement fait par le Bénin n'arrive pas à donner des effets positifs qu'il faut, parce qu'on a dit c'est un traitement de 8 jours ou de 10 jours au maximum. Donc si vous êtes sous traitement 8 jours, 10 jours maximum et que il n'y a pas changement, il y a un problème. Et que le ministre a dit, et c'est ce qui est plus important et très gravissime même, qu'il y a plus de cas graves dans les cas détectés. Ce qui veut dire que nous, est-ce le Bénin l'appareil respiratoire pour contenir tout le monde, parce que si ça attaque la respiration, c'est que c'est stade critique et extrême. Est-ce le Bénin dispose du lit nécessaire? Nous sommes déjà à 1000 cas. On va hospitaliser ces 1000 cas. On va mettre en quarantaine les contacts également, ce que nous n'avons même plus la communication autour des contacts désormais. C'est-à-dire, même si vous êtes contaminé quelque part, on vous prend seulement, on laisse tous vos contacts et autres là. Donc, il y a vraiment un souci et que la responsabilité incombe à tout le monde.
Maxime Legault, le langage officiel semble avoir évolué. Il y a quelques jours encore, le ministre Benjamin Houpati disait que l'hôpital d'Aladar, l'hôpital qui accueille les malades de la COVID-19, cet hôpital n'est pas encore envahi, n'est pas débordé, démentant un maire, pour ne pas le nommer, Malé Gomina, le maire de Djougou. Mais désormais, il fait savoir, au cours de cette sortie sur la télévision nationale, il fait savoir que tous les malades ne sont pas à cet hôpital-là, que des gens sont dans leur maison et suivent le traitement eh bien, sous la responsabilité du personnel de la santé.
Plus honnête, je voudrais dire qu'il y a une légèreté dans la gestion de cette pandémie-là. Je vais d'abord faire une évaluation sommaire que j'allais dénommer peut-être une évaluation historico-sociologique parce que quand cette pandémie a fêté le Bénin, on n'était pas à ce stade. Qu'est-ce que je voudrais dire par là, concrètement? Nous avons commencé timidement, d'abord avec deux cas, avec l'Allemande et avec le Burkinabé. Mais, et c'est dans ce sens-là que les autorités ont décidé. Si c'est comme ça, là, prenons des mesures. Et la première mesure immédiatement prise, cela concernait le dispositif du cordon sanitaire. On en était là. Mais il était aussi fait que on était dans une année électorale et que à la fois le Bénin devrait gérer le scrutin communal et à la fois faire face à la pandémie due au coronavirus. Mais nous avons constaté que l'élection, les décisions liées aux élections étaient une priorité pour le gouvernement. Sinon, il y avait même des observateurs qui prévoyaient même que, comme c'est le cas, il va falloir peut-être différer l'organisation des élections, le temps de prendre des précautions spécifiques pour aller au-delà, c'est-à-dire pour contrer ce mal qui nous atteint avec une proportion exponentielle qui dépasse. Nous connaissons bien notre économie. Nous sommes à un moment donné. Maintenant, depuis quand on a fermé les églises, quand on a fermé certains lieux de culte, des lieux de culte, j'allais dire, à comparer avec les statistiques que nous avons aujourd'hui. Et aujourd'hui, chacun est libre, mais les frontières, quand on a dit qu'on a fermé certaines frontières, et on a laissé aussi toujours la voie aérienne ouverte. Et nous avons fait le constat que le chiffre ne fait qu'augmenter de jour en jour. Mais voilà, tout de suite là, fait un effort au moins au niveau des experts pour identifier à quoi cela pouvait être dû. Les élections, les gens n'ont pas respecté toujours par endroit. Le gouvernement fait ses efforts. Mais par contre, les gens n'ont pas respecté toujours les dispositions prises.
Donc pour vous, les élections sont passées par là, par ces chiffres exponentiels, comme vous dites tantôt.
D'une part, mais d'autre part, le gouvernement a, peut-être il y a une légèreté. Quand je parle en termes de légèreté
au niveau des populations.
Au niveau des populations. Au niveau des populations. Parce qu'il y a des gens qui ne sont toujours pas conscients que le mal existe. Et qu'il y a aussi une légèreté au niveau des médias. C'est-à-dire, en dehors du contrat gouvernemental, il devait y avoir aussi une sensibilisation citoyenne. Les médias devraient prendre au sérieux cette pandémie-là. Au niveau de l'institution qui gouverne les médias, à savoir la HAC, mais c'est une institution républicaine. Et les hommes des médias ont un rôle à jouer dans ce processus-là.
Vous pensez que les médias ne s'investissent pas assez
dans la mesure de leurs possibilités, mais ils n'ont pas trouvé d'accompagnement qu'il faut.
C'est-à-dire?
Parce que tout le monde devrait être impliqué.
Il devait avoir aussi de l'argent de l'État comme d'autres structures.
Naturellement. Puisque c'est une pandémie, c'est une urgence. Et quand, par exemple, là, je tombe, par exemple, et puis on va à l'hôpital, peut-être qu'il y a des trucs que j'ai prévus, mais quand ça dépasse là, il faut aller dans l'urgence. Et si déjà, les populations, que ce soit la radio, que ce soit les canaux digitaux, tout le monde est informé, on pourrait atteindre la cible. C'est ma façon de lire.
Eh bien, plus de sensibilisation de la part des journaux aurait atténué le mal, pense Maxime Nogbo, Josaphat Dabolino.
Non, mais en fait, c'est son avis que je respecte d'ailleurs bien, mais les médias ont joué leur rôle. Et quand il leur cite les contrats gouvernementaux, ce que moi je trouve même pas trop pertinent parce qu'un journal, c'est vrai, on peut parler d'accompagnement au niveau de notre institution de régulation, des moyens mis à sa disposition par l'État central, mais si parallèlement vous avez des contrats avec le gouvernement, ce qui veut dire que d'office, votre journalisme sera un peu biaisé. Vous ne pourrez pas faire le travail de façon professionnelle. Vous ne pourrez que donner l'information qu'on vous donne et vous ne pourrez que relayer ce que la communication gouvernementale voudrait, c'est-à-dire la ligne que le gouvernement définit. Et c'est malheureusement le cas parce que ça prouve que si déjà à ce niveau, vous avez cette orientation du gouvernement, du régime en place, vous ne pourrez que répéter, je dis bien répéter ce que déjà les ministres, le porte-parole du ministre répète déjà ou dit déjà dans la presse. Donc ce serait juste de l'accompagnement. Et c'est peut-être cette option qui n'a pas marché. On aurait peut-être aimé que des journalistes puissent exercer librement et indépendamment avec la conscience professionnelle qu'il faut accompagner véritablement le mouvement de lutte contre la pandémie, mais malheureusement avec ces genres de contrats que vous citez, on a vu les effets. Et également la sensibilisation, est-ce que ça a manqué? Je ne crois pas parce que on a vu quand même des gens sur le terrain, on a vu au cours de la campagne, même si on a dit que la campagne devrait être exclusivement médiatique, on a vu comment ils ont fait leur campagne, dire bien leur campagne, parce que des attroupements, nous en avons enregistré, des accolades même au cours de la passation, nous en avons enregistré. Et en tant que citoyen lambda et que vous voyez votre élu local ou élu communal ou municipal qui vous dit ne vous embrassez pas, ne vous donnez pas la main, restez un maître de l'autre, et qu'au même moment lui reste collé à son voisin, et il donne des accolades, il se serre la main, alors il y a ce souci. Mais est-ce que ça existe vraiment? Donc, on commence par se poser des questions. La sensibilisation, on doit changer de fusil d'épaule. On a toujours mis l'accent sur nous avons tel nombre de cas, nous avons telle chose de cas. Je crois qu'on doit changer maintenant la ligne communicationnelle. Aller au-delà de ce qui est véritablement proposé aux citoyens, aux patients. Si éventuellement vous êtes testé positif, quel est le mécanisme de traitement? Aujourd'hui, j'ai remarqué une opacité dans la communication à ce niveau parce qu'on ne nous dit pas. Au-delà de ce que vous êtes sous traitement pendant 8 jours, 10 jours maximum, on ne nous dit pas quels sont les produits qu'on utilise. Est-ce la chloroquine ou l'hydroxychloroquine uniquement, ou il y a d'autres produits? Quel est le mécanisme de traitement? Et à la fin, quel est le suivi? Parce que les scientifiques ont prouvé que vous n'êtes pas immunisé une fois atteint de la COVID. Donc, le même sujet peut encore revenir quelques jours après parce que jugé encore testé encore positif. Maintenant, on ne nous donne pas les statistiques aujourd'hui. Qui sont ceux-là qui sont plus exposés? Qui sont ceux-là, en tout cas dans les cas, dans les 1015 cas actuellement, qui sont ceux-là? Quel est le profit de ces gens-là? Ouais. Mais malheureusement, nous n'avons pas ça. Et vous allez dire, c'est nous en tant que journalistes d'aller à la quête de cette information. Mais moi, je l'ai fait. J'ai adressé une correspondance. J'ai passé par le canal où on dit Ask Government, un mécanisme mis en place par le gouvernement béninois pour avoir des réponses. Mais je l'ai fait jusqu'à présent. Ça fait 3 jours déjà, sans suite. Ce qui veut dire qu'en fait, qu'il n'y a pas encore de communication. Le ministre en sortant, nos confrères de l'OITB auraient eu l'aimabilité quand même de le questionner sur la question pour savoir mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, quel est le profil de ces gens-là et comment le traitement est fait. Encore que jusqu'à présent, à moins que je me trompe, il n'y a pas encore ce média qui a eu l'autorisation de visiter les centres de traitement à Alada, à Cotonou et à Parakou pour véritablement filmer les patients, même si c'est des images floutées, mais filmer pour dire vous êtes vraiment en traitement et c'est comme ça se passe. Et c'est ça le citoyen veut voir. Le citoyen veut voir le concret parce qu'il doute toujours de l'existence de cette maladie. Mais je crois que si on fait la communication, ça vous a dit, il faut changer la ligne communicationnelle. Si on va dans ce sens et montrer aux citoyens que nous avons des gens hospitalisés dans cet hôpital, nous avons des gens qui sont sous traitement et que les médias montrent, même si avec de manière professionnelle, bien sûr, flouter l'image, je crois que ça peut changer un peu les choses.
Vous parlez, Josaphat Dabolino, de la communication autour de cette maladie. Eh bien, le ministre, ou plutôt le langage officiel, c'était « il faut vivre avec la maladie ». Vous l'avez entendu, tout le monde l'a entendu. Mais sur le plateau de la télévision nationale hier, le ministre dit désormais, comme si ça l'aimait, « le mal est dans la communauté Essicule ». Comme vous dites, faites attention.
Et c'est pour ça, le langage a évolué, vous l'avez aussi dit, le langage a véritablement évolué. C'est entre-temps, même si eux aussi, ils se disaient, ça existe, le Bénin peut vaincre la fatalité. Et même le président, dans sa sortie, disait, oui, nous pouvons vaincre cette fatalité. Il n'y a pas de difficulté insurmontable. Nous avons surmonté, pensant qu'en fait, que c'est déjà maîtrisé. Et quand il faisait, mon confrère faisait allusion, Maxime faisait allusion à quelques cas, au premier que nous avons eu avec la mise en place du cordon sanitaire et autres, on se demande maintenant pourquoi nous sommes à 1015 cas et qu'on laisse les églises ouvertes et qu'on laisse les écoles ouvertes et qu'on laisse les marchés, qu'on laisse les bars et tout le reste.
Peut-être qu'on est toujours dans l'autre ligne, on vit avec la maladie.
Oui, justement, on vit désormais. C'est pour ça que j'ai dit, les dirigeants, les autorités doivent prendre des mesures fortes, des décisions fortes pour dire, maintenant, nous sommes face à notre destin. Il y a le président
décision
français...
Décision forte, le confinement par exemple?
Oui, pourquoi pas aller au confinement, parce que le Bénin n'a pas encore connu ça. Mais je crois que c'est peut-être le moment, parce que nous sommes dans la contamination de masse. Et c'est compliqué. Le confinement, peut-être 15 jours pour voir si la courbe va commencer par descendre. Dès que la courbe commence par descendre, on dit, ok, donc nous allons passer au déconfinement de manière progressive. Mais si ce n'est pas le cas, moi je crains vraiment le pire.
Le confinement, non, disait le chef de l'État, Patrice Talon, il y a quelques semaines encore. Non, pourquoi? Parce que pour des raisons économiques, disait-il, pour des raisons économiques, on ne peut pas mettre tout un pays au confinement, on ne peut pas contraindre tout un pays au confinement et contraindre aussi l'économie donc à l'arrêt.
Avant d'en arriver là, je voudrais citer le professeur Tevou Ejiri à travers son ouvrage « Il n'y a pas de richesse que d'hommes ». Si nous voulons parler d'économie alors qu'il y a une pandémie dévastatrice, capable de dévaster l'espèce humaine, alors mais... C'est très paradoxal. Je voudrais d'abord revenir sur certains aspects de ce que mon confrère vient de dire. D'abord, l'opacité au niveau du traitement. Même j'ai l'impression que cette pandémie, comme je l'ai dit dans ma note introductive là, c'est trop protocolaire. Parce que quand déjà vous voyez des scientifiques se confondre entre eux, on va dire qu'il y a une maladie, qu'il y a des symptômes, et après on va dire que c'est asymptomatique. Ou on va quand on va prendre des trucs là.
Ça se manifeste sur tout le monde
de la même façon. De la même manière. Ça veut dire qu'il faut prendre ça avec pincette. Autrement dit, ça veut dire que tout cela, soit on peut dire un jour que le mal là, tout le monde est déjà infecté.
Oui. Et là, dans ce sens-là,
ce n'est pas ce que la science enseigne. Parce que, tel que la science enseigne les attitudes, nous sommes dans le domaine de la médecine. Mais je ne voudrais pas revenir là. Quand il parlait aussi de l'opacité par rapport au protocole médical, je pouvais comprendre parce que même les puissances qui ont des moyens, de gros moyens, n'ont pas pu sortir un vaccin adapté. Alors, chaque État fait la politique de ces moyens.
En fait, ils n'ont pas pu sortir un vaccin parce que le vaccin suit les normes et qu'en moins de 6 mois, on ne peut pas sortir un vaccin. Vous savez, aujourd'hui même, il y a Christa Neo qui, dans sa publication hier, avait fait cas du premier test qui est déjà fait au niveau de Soweto en Afrique du Sud. Donc, on ne peut pas sortir un vaccin, mais peut-être un médicament curatif. Ça, je suis peut-être d'accord, mais les avis ne peuvent pas converger au même moment pour la même pandémie, alors que nous devons avoir la guerre des firmes pharmaceutiques, nous devons avoir également le choc des idées des scientifiques. Donc, il y a tous ces paramètres à prendre en compte.
Alors bien, je voudrais dire que chaque État doit faire la politique de ses moyens. Et c'est justement dans ce sillage-là que le gouvernement pouvait s'inscrire à travers cette opacité-là. Parce qu'on n'a pas dit que pour les cas qu'on a traités et qu'on est venu communiquer dans les médias, on a soigné tant. On n'a pas dit ce qu'on a utilisé, le dispositif. Bon, voilà un peu mon regard vis-à-vis de cette problématique.
Heureusement, il n'y a pas que la pandémie du coronavirus dans les journaux ce matin. Dynamis Info qui nous amène par exemple en politique et dit ceci, présidentielle de 2021 à 10 mois de l'échéance, quand la rigidité des textes amène à taire les intentions de candidature. Et, en parenthèse, il écrit ceci, à quelques exceptions, une première depuis le renouveau démocratique.
Tout commence toujours un jour. Tout commence toujours un jour. Nous avons le Bénin a viré dans une démocratie un peu à la béninoise. Je dis ça béninoise. Comme ça. Oui, voilà, je dis ça comme ça. Comme ça, parce que déjà, on aurait peut-être aimé un jeu véritablement ouvert, mais on a compris que depuis 3 ans ou depuis 2 ans, quand on a commencé par organiser les échéances électorales sous le régime de président Patrice Talon, il y a une nette différence. Il y a que ce n'est plus qui est citoyen disposant des droits nécessaires pour participer à une élection, mais qui est à même de m'accompagner pour la quête de cette élection.
Tout a changé ou tout est rompu?
Je dirais tout a changé à la manière dont veut le prince, à dire le prince, bien sûr le président de la République, permettez que j'utilise cette expression. C'est un peu dommage, le législateur malheureusement a accompagné la volonté politique. Bon, on dira que l'Assemblée nationale c'est le haut lieu de la politique également, mais l'Assemblée nationale, le législateur a accompagné au lieu d'être véritablement le représentant du peuple, parce que le peuple n'a jamais voulu des lois aussi personnelles entre griffes. La loi, de façon universelle, devrait être impersonnelle, mais on a constaté qu'aujourd'hui, les lois sont taillées sur mesure. Les lois sont taillées selon, bien sûr, la carrure, selon, bien sûr, la personnalité, ou du moins, selon, bien sûr, le degré de ce que nous voulons d'une échéance donnée.
Les agendas politiques, voilà. Les objectifs immédiats.
C'est selon, bien sûr, l'agenda de l'heure. C'est selon, bien sûr, le scrutin de l'heure. Vous avez vu en 2019, quand on devrait aller aux élections législatives, il y a les lois qui ont été votées uniquement. Je dis uniquement parce que juste après, on les a retouchés, on les a modifiés uniquement pour aller à cette échéance électorale législative. Juste après, il y a une modification, il y a une retouche. Nous sommes allés aux élections communales, on a retouché juste après, ou du moins on a commencé par retoucher, maintenant pour aller à la présidentielle. Donc c'est selon bien sûr l'humeur, selon bien sûr l'échéance à venir. Et c'est extrêmement dommage. Et nous sommes à quelques mois, le journal a bien fait, Dynamis Info a bien fait de le rappeler, 10 mois exactement pour le scrutin présidentiel. Mais aujourd'hui, et qui sont ceux là qui pourraient être à même de dire moi je veux être candidat, et qui peut se présenter devant le peuple pour dire j'ai une telle ambition, alors qu'on sait qu'il y a les articles sur le parrainage où vous devez recueillir déjà 16 signatures, soit des maires ou des députés, avant de vous porter candidat. Et vous savez également que les principaux opposants, les principaux acteurs de l'opposition se sont retrouvés dans une situation où soit financièrement ils sont asphyxiés, et politiquement on les a détruits, et socialement on essaie de ternir également leur image, et pour couronner le tout, médiatiquement on essaie de les enterrer, parce qu'aujourd'hui il est rare de voir les opposants, en tout cas les acteurs de l'opposition, de la vraie opposition, de la vraie classe politique de l'opposition. Pas parce que vous allez me citer certainement FCBE qui en savait, qui se dit toujours de l'opposition.
Non, vous, FCBE n'est plus de l'opposition.
Non, mais moi je ne les ai jamais considérés d'ailleurs comme un vrai parti de l'opposition depuis l'obtention de manière frauduleuse, je dirais à la limite, après bien sûr traitise de récépissé d'enregistrement, après bien sûr la participation au dialogue national, au dialogue politique national, sans bien sûr l'avis du mentor, bien sûr, et également la participation des élections communales et municipales, alors que le président d'honneur, à cause de ça, s'est retiré pour dire si nous devons participer à une élection où déjà nos listes ont été déjà modifiées à la dernière minute pour aller déposer au gré de quelqu'un, et que moi, en tant que premier responsable, en tant que président d'honneur, ayant bien sûr le droit de le faire, et que vous devez participer à cette élection, moi je me retire, et qu'au même moment, les gens, les ceux-là qui se sont arrangés pour avoir les services ont participé à cette élection. Depuis ce moment, je me dis, ce n'est plus une partie de l'opposition, c'est une partie qui permet de valider les élections, parce qu'il fallait valider les élections en disant qu'il y a l'opposition et la mouvance. Mais ce n'est même pas là le sujet. Le sujet aujourd'hui, c'est que les FCBE, qui se disent même de l'opposition, n'ont pas pu avoir 16 mairies. Ce qui veut dire qu'il leur sera difficile, même s'ils doivent désigner un candidat, de recueillir 16 signatures, soit des maires ou des députés. Allons-nous assister à défection, à des démissions, à de ralliements après? C'est la grande question. Le temps s'apprête et c'est dommage que le Bénin, à 10 mois, n'ait pas une idée de qui pourrait qui pourrait affronter le président Patrice Talon si entre-temps il avisait et qui devrait encore se présenter.
Personne ne sait qui sera candidat en 2021, même pas si le président sera candidat, on ne le sait. En tout cas, Dynamis Info écrit dans un autre article, participation ou non à la prochaine présidentielle. À quel moment de l'échéance Patrice Talon va-t-il aviser? C'est ce qu'il demande dans le journal.
Alors, cela nous amène au décryptage global de l'actualité future sur l'organisation des élections présidentielles 2021. Je voudrais d'abord, avant d'en arriver là, décrypter la qualité des lois qui permettent d'organiser un scrutin. Et je suis en train, parce que nous avons parlé du Bénin, État démocratique. Et d'office, je pense que notre démocratie a reçu un coup dur. Un coup dur selon la mesure où les lois sont manipulées. Et que cela ne s'appelle pas démocratie. Parce que quand la démocratie, pouvoir du peuple, pas le peuple et pour le peuple, mais quand c'est des individus qui s'accaparent du pouvoir et qui en font ce qu'ils pensent, je pense que le peuple n'en est plus peut-être responsable. Je voudrais dire là, quand je parlais de la crédibilité des lois qu'ils ont votées, nous avons vu la fois passée comment nous sommes engagés dans le processus électoral concernant les élections communales. Mais le processus étant très avancé, et on vient à l'Assemblée, on vote une loi dite interprétative et complétive, mais cela, ça ne va pas du ressort de notre démocratie. Si tel est le cas, et on a vu au finish que le code électoral qui a permis d'organiser ce scrutin-là, il y avait eu des insuffisances. Et il faut revenir rapidement dans le couvent pour y compléter. Ça veut dire qu'il y a des erreurs. Et je pense que si le chef de l'État, lui-même, il a des conseillers honnêtes, il peut lui faire des propositions concrètes pour éviter des situations du genre. Parce que une élection, ça peut dégénérer. Et puis, nous parlons de la crédibilité de notre démocratie. Et oui, le Bénin était le laboratoire de la démocratie. Mais avec les derniers événements, nous sommes en train de chuter. Et là, il faut faire un regard objectif sur le sujet. Et qu'est-ce qu'il faut tout de suite là corriger? D'abord, c'est les institutions de contre-pouvoir, la qualité de notre assemblée qui est là d'office là, interpellée. Il faut voir comment les députés travaillent, la qualité, la logistique, la qualité des lois qu'ils ont votées. Et là, c'est là où il faut faire un travail. Et là, le peuple, les différents acteurs. Et il faut dire maintenant, tout de suite là, qui sera candidat, qui ne sera pas candidat. Tout le monde a de l'ambition, mais les gens ont peur. Parce que à force de peut-être lever son petit doigt et de tout de suite pas faire des agitations là, on peut commencer par vous poursuivre pour rien. Tout cela, c'est des menaces à la démocratie. C'est des menaces à la démocratie. Le président qui est là, il fait ses efforts. Il avait promis à son peuple qu'il allait faire mandat unique. Mais entre-temps, les confrères l'ont interpellé un jour, l'ont interviewé un jour. Il a dit qu'il avisera. Peut-être il a vu que ce qu'il avait dit c'était erroné. Il pouvait continuer. Là, c'est le peuple qui appréciera. Mais ce que le peuple veut aussi, là, que cette compétition y soit peut-être libre. Et là, on va se permettre peut-être de donner caution à ces réformes qu'il a engagées ou peut-être de dire nous allons encore faire une autre expérience pour voir. Là, notre démocratie là va peut-être reprendre ses plumes, ses lettres de noblesse. C'est mon regard.
Et le confrère de la matinée, Josaphat Dali Bolino, le confrère de la matinée de s'interroger, aéroport international de Glo Digbé, hôpital de référence, que deviennent ces grands chantiers annoncés par la rupture?
Ils deviennent des maquettes, ils ont été des maquettes et les maquettes sont toujours là. Non, les grands chantiers, vous avez parlé de grands chantiers quand même. Mais bien avant de parler de ces chantiers, permettez bien de dire que effectivement les gens non seulement ont peur, mais ils ne peuvent pas se lever parce que la loi est claire là-dessus, la législation en vigueur est claire là-dessus. Il faut recueillir la signature de 16 maires ou de députés et ou de député avant d'être candidat. Et aujourd'hui, la configuration actuelle de l'Assemblée nationale, où nous avons que les deux partis soutenant le chef de l'État, l'Union progressiste et le Bloc républicain, qui soutient le chef de l'État, qui se retrouve au niveau de l'Assemblée nationale, il sera difficile pour un candidat de l'opposition de se lever pour dire « Donnez-moi votre signature ». Les mairies, il n'y a que 9 mairies contrôlées par les FCBE, je crois bien si mon compte est bon, et que 7 mairies, voilà. Il n'y a que 7 mairies contrôlées par les FCBE, et que si on doit recueillir 16 signatures, il sera difficile pour un candidat des FCBE de se lever aujourd'hui pour dire « je veux être candidat ». Autre chose également, c'est que dans la mouvance, on ne peut pas se permettre de dire « je suis candidat » parce qu'on ne sait pas si le big boss, comme on le dit, le président de la République actuel va encore aviser pour dire « je me présente » alors qu'il avait dit « je ferai un seul et unique mandat ». Donc, c'est un jeu qui semble un peu plus compliqué, très compliqué d'ailleurs, mais vivement que déjà on puisse avoir une idée, parce qu'à dire « moi, si on ne peut pas avoir une idée, c'est très grave pour le Bénin ». Maintenant, par rapport bien sûr au chantier, les grands chantiers, vous avez bien dit, Vigile Rouancet,
oui, il s'agit l'hôpital de référence à l'aéroport de Glodigbé.
Voilà, il s'agit des grands chantiers. Tout grand chantier ne peut pas se construire en 2 ans, en 4 ans, ni en 5 ans. Bon, à moins que véritablement le pays dispose des moyens nécessaires. Mais pour ce qui est souvent dit par les experts, il faut du temps. Et l'étude, ça prend du temps. La phase de financement, ça prend donc du temps. Et tout prend du temps. Maintenant, nous avons un projet, et comme l'État est une... L'administration est une continuité, même si ce n'est pas l'administration Talon à partir de 2021, ce sera notre administration qui va continuer. Les grands chantiers vont refaire surface dans moins de 10 mois pour permettre aux politiciens d'aller conquérir l'électorat. Les grands chantiers feront surface avec leur maquette, avec bien sûr l'infographie nécessaire pour aller recueillir l'avis, pour aller dire aux populations, vous voyez, après tout ce que nous avons fait dans asphaltage, dans notre leasing, dans toutes les actions, nous avons également l'ambition d'aller encore plus loin avec ces chantiers que vous voyez, parce que déjà la maquette est déjà réalisée, parce que l'infographie est déjà réalisée, et que la population va croire, oui, effectivement, si vous avez pu faire la bataille, vous avez pu avoir telle chose et que vous avez cette infographie avec, vous avez cette vision, pourquoi ne pas vous donner la chance de continuer? En tout cas, c'est ce que je vois. Les grands chantiers vont refaire surface. Malheureusement, comme c'est le cas, ce serait des thèmes de campagne pour les turiféraires, bien sûr, du régime. Ce serait également le thème de campagne pour le président Patrice Talon, si éventuellement il doit se présenter. Ce serait le thème de campagne pour Patrice Talon, s'il doit encore soutenir quelqu'un d'autre dans son camp. Et les grands chantiers, ça prend du temps, et le politique doit l'utiliser autant que possible pour avoir ce qu'il veut.
Maxime Lobo, l'actualité en dehors de la COVID-19, en dehors de la politique, c'est l'inondation, et le confrère de la matinée de dire assemblée des villes d'Abomey et Calavi, de Cotonou, l'inondation, ce phénomène qui défie tous les régimes et continue, qui complote finalement contre le destin de ces deux grandes villes du Bénin, du sud du Bénin.
Antoine de Saint-Exupéry disait, quel enfant laisserons-nous sur cette terre? Et quelle terre laisserons-nous à nos enfants? Ça, c'est un phénomène écologique, parlant bien sûr des inondations. Et vous n'êtes pas sans savoir que depuis, le climat a reçu un coup. Depuis, la démographie a évolué. On ne peut qu'assister à cela. Ça fait partie des grands enjeux d'urbanisation. Maintenant, nous sommes en face des conseils communaux nouvellement installés qui doivent faire face à ces phénomènes environnementaux, j'allais dire. Mais que se faisait-il? Puisque vous n'êtes pas sans savoir que les pluies ces derniers temps-là sont tellement intenses et que nous allons vivre avec ces inondations. Mais dans le même temps, les inondations et la pandémie qu'on n'a pas fini de gérer. Alors, le gouvernement est en train peut-être de faire ses efforts. Mais il faudra vraiment tendre la main aux grands partenaires pour accompagner. C'est le moment plus que jamais d'associer les vrais experts et non les experts politiciens, les vrais experts. Quand on avait dit par exemple que le plan d'urbanisation de Cotonou a été erroné par le passé, ou pour certaines grandes villes erronées, ce n'est pas de l'heure. Si on ne veut pas faire de la politique, quand ce n'est pas possible, il faut dire. Quand c'est possible, il faut dire. C'est de l'honnêteté. Et là, quand nous parlons de l'inondation aujourd'hui, de ces enjeux écologiques, il faut vraiment faire face aussi à des urgences comme nous savons. Et le peuple, les gouvernements n'ont pas les moyens. Parce que tu es chez toi et une pluie commence, une pluie dévastatrice commence une nuit. Et tu te retrouves sous l'eau. Mais tu vas faire comment? Tu finiras par accepter ce que tu ne peux pas accepter. Ou tu deviens banalement un sans-abri. Et là, c'est peut-être tu deviens un cas social pour le gouvernement. Ou les gouvernants. Et dans ce contexte-là, on ne peut qu'être un observateur peut-être et passif.
Josaphat Dabolino, est-ce que pour un mal, on ne peut pas voir un bien plutôt dans ces inondations-là, lorsqu'on sait que ces équipes municipales viennent de s'installer et qu'ils n'avaient pas meilleur pour leur faire prendre peut-être la mesure du mal, n'est-ce pas?
Non, mais le souci, c'est que ce n'est pas un problème qui a commencé il y a quelques semaines seulement. Ce n'est pas un problème parce que le conseil communal ou les conseils communaux se sont installés récemment. C'est un phénomène cyclique. On sait déjà qu'à partir de tel moment de l'année au Bénin, dans le sud, dans la partie méridionale, il y a la pluie. On sait également qu'à un moment, à une période de l'année, il y a la sécheresse. Donc c'est un phénomène cyclique, périodique, et on devrait d'abord avoir la politique nécessaire pour faire face à cela. Donc l'équipe communale aujourd'hui, ou les équipes communales aujourd'hui peuvent être, en tout cas pour l'instant, épaillées, parce qu'on va dire il faut prendre connaissance des dossiers, il faut aller en contact, il faut aller sur le terrain, il faut. Mais au-delà de ce que l'équipe communale doit faire, il y a également les efforts de l'administration centrale. Quand Maxime parlait que c'est le moment plus que jamais de tendre la main aux vrais partenaires pour des aides, moi je suis foncièrement contre cette façon de penser, cette façon de voir. On ne peut pas s'appuyer sur l'aide extérieure pour faire ce que nous pouvons faire. On ne peut pas aller s'installer sur les lits de ces eaux pour dire: chers partenaires techniques et financiers, vous avez la capacité de me donner des milliards de francs CFA, alors je me suis installé ici, je suis dans l'eau, venez me sauver.
On ne peut pas aller chercher un problème pour finalement rechercher la solution.
La solution, pas même à l'interne, mais à l'extérieur, pour dire, vous là, vous êtes à l'extérieur, moi mon problème ça vous concerne, venez m'aider, envoyez-moi de l'argent, je vais faire ceci. Non, je suis contre ça. Mais là, aujourd'hui, je l'ai dit l'autre jour, ce sont les mairies qui délivrent les attestations d'habiter, de construire. On sait déjà le plan d'urbanisation, en tout cas des grandes villes aujourd'hui, on connaît. Même si d'aucuns portent toujours de gants en parlant bien sûr de ce plan d'urbanisation, surtout dans les grandes villes. Mais on sait déjà au maximum que, on sait déjà en général, que ce qui est fait, si nous suivons ce plan, on pourrait s'en sortir. Et quand il n'y a pas des experts qui doivent faire le travail véritable, à Cotonou par exemple, la municipalité a commis des experts qui ont travaillé, qui ont élaboré des rapports, qui ont déposé leurs rapports à l'administration municipale, je dirais comme ça parce que je ne veux pas appeler le nom de X ou de Y pour frustrer des gens, mais l'administration municipale a reçu les rapports et ce qui doit être fait pour limiter, je dis limiter, ce n'est pas, on ne peut pas quand même aller parce qu'il y a la démographie, il l'a souligné, et il y a aussi d'autres paramètres à prendre en compte. Donc, pour limiter au moins l'inondation dans Cotonou et environ, il y a quand même ce rapport qui existe, qui est au niveau de l'administration municipale de Cotonou, par exemple. Et là, c'est avec preuve. Et je parie que dans d'autres communes également, ils ont peut-être commis des experts pour le même travail. Mais au même moment, que fait la population? La population continue toujours de s'installer. Tout le monde veut toujours venir dans les grandes villes. Pourquoi? Parce que l'administration, les grandes affaires sont dans ces grandes villes. On n'a pas pu décentraliser, délocaliser les administrations pour permettre de désengorger ces villes-là. Il y a quelques années, on ne parlait pas d'Abomey-Calavie de cette façon. Aujourd'hui, c'est la commune la plus peuplée du Bénin. Et on doit s'attendre forcément à ce qu'il y ait de ces cas, de ces désastres naturels. Parce que des gens se sont installés. Des gens ont voulu s'installer dans cette commune et se sont installés. Des gens continuent toujours de s'installer. Est-ce que vous savez, Vigile, la France, que toujours à Cotonou, on continue de vendre les parcelles, on continue de construire, alors qu'en fait, que nous crions chaque saison qu'il y a l'inondation. Et l'inondation, ça va être une politique générale. Ça dépasse désormais la politique de l'administration municipale ou décentralisée. L'administration centrale doit intervenir. Et je crois que l'administration centrale a même commencé. C'est pour ça que nous avons le Grand Nankwe. C'est pour ça que nous avons bien sûr des projets initiés par le gouvernement pour permettre, pour accompagner ces communes-là, Abomey-Calavi, Port-Nouveau, Cotonou, Semekpoji, Ouida, dans la lutte contre ces inondations. Je crois que la politique doit être au-delà. Mais attendre forcément des partenaires techniques et financiers, ce serait du leurre. Nous devons changer nos mentalités. Nous devons revoir notre politique d'attribution et d'installation des citoyens sur les parcelles. Et là, on peut limiter déjà le cas et prendre les recommandations, je dis bien, prendre les recommandations des experts qui se trouvent aujourd'hui dans les tiroirs de la municipalité de Cotonou.
Nous finissons avec le journal Diakpata qui annonce cette bonne nouvelle. 125 millions de dollars pour l'axe Boïkon-Parakou, le Bénin, pour mieux desservir le Mali, le Niger et le Burkina Faso.
Vraiment, enfin, parce que déjà, vous empruntez la voie Boïkon et Parakou, déjà, juste après...
De ça?
Juste après Boïkon, il y a Avogbana, à partir déjà d'Avogbana, à quelques kilomètres du carrefour de Boïkon, vous êtes déjà dans le souci. À Dassazoumé, c'est le com. Donc, ce serait vraiment génial. C'est déjà bien. Une fois encore, on s'est appuyé sur l'aide extérieure pour faire ce qui nous incombe. On s'est appuyé sur l'aide extérieure pour faire ce qui est bon pour les Béninois. Mais on ne veut pas vivre en autarcie. En tout cas, c'est déjà une bonne nouvelle. Et vivement que l'argent soit utilisé pour soulager véritablement les usagers de cette voie.
Maxime.
Non, mais en fait, c'est un soulagement général parce que si ce projet arrive à être au concret, nous en avons besoin. Quand le protocole de la CEDEAO, la Libye sur des personnes des biens, et quand pour parler de la Libye sur des personnes des biens, là, il faut vraiment des voies de bonne qualité qui relient ces États-là, cités.
Merci à vous, Maxime Logbo. Vous êtes journaliste à la Radio Afrique Espoir. C'est une radio émettant depuis Porto Novo. Josaphat Dabolino, vous êtes à la rédaction de Crystal News. C'est la fin de cette émission avec Ghislain Agbangba qui était à la mise en onde. Eh bien, un autre rendez-vous pour lire la une des journaux. Ce sera lundi prochain. Pour l'instant, eh bien, passez un bon week-end et portez-vous bien.